Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Aujourd'hui avec Valentin Schnork et Florian Vanet du Sport Center ainsi que Nicolas Emeneger de Blue Sport, on va parler de la première partie du Servette FC passé de 0 à héros en l'espace de quelques semaines et si les Grenats étaient candidats au titre. Dans la deuxième partie, on va parler foot vaudois et le Lausanne Sport qui va bientôt retrouver sa place de numéro 1 du canton. Dans la troisième partie, on va parler Burnley et Manchester où j'ai la chance d'être pour évoquer le cas Amdouni à Burnley et le match de Champions League entre City et IB ce mardi. Bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe. Salut les amis, salut Nicolas, comment ça va ?
Ça va très très bien, et de votre côté ?
Très bien, merci.
Florian. On est bien.
Bon, je vous propose de partir directement sur la partie Grenat. Valentin, on va forcément venir avec toi, parce que tu as été dithyrambique avec ce Servette FC, vainqueur souverain à Zurich ce week-end.
Oui, je pense que c'était de loin la meilleure, en tout cas une des toutes meilleures prestations de Servette cette saison. Notamment une première mi-temps qui était franchement extrêmement bien maîtrisée à la fois dans la gestion du ballon qui j'ai trouvé beaucoup de variété entre de savoir quand est-ce qu'il faut verticaliser, savoir quand est-ce qu'il faut la conserver un petit peu, mais faire preuve un petit peu de patience et surtout une capacité à se protéger défensivement qui était... Alors c'est clair que Zurich n'est peut-être pas l'équipe la plus menaçante constamment dans un match. Mais on sait que c'est une équipe qui peut être très, très perçante comme ça et qui, sur deux, trois situations, peut faire très, très mal. Et je trouve que Servette a été quand même très, très souverain dans sa façon de gérer ce match. Je pense qu'il y a de plus en plus de maîtrise, surtout du système, de l'animation, du projet de René Weiler. Et vu que les joueurs sont bons, enfin, les joueurs ont toujours été bons, mais on sait que ces joueurs sont bons et qui, en plus, y répondent présents désormais. On peut imaginer de très belles choses pour Servette durant cette saison, je crois.
Nicolas, ce Servette FC, c'est le Servette d'aujourd'hui, c'est ça que voulait mettre René Weiler en place ?
René Weiler était un nouvel entraîneur. Il avait besoin de temps pour mettre certaines choses en place. On en avait parlé il y a quelques semaines. Il n'avait pas forcément eu le temps avec les matchs qui s'étaient enchaînés en qualification européenne. Là, il a peut-être eu et certainement plus de temps. Et logiquement, on voit les résultats parce que, comme l'a dit Valentin, dans cet effectif, il y a beaucoup, beaucoup de qualité. René Weiler a aussi évolué dans sa manière de gérer son effectif, ce qu'on lui avait reproché dans les premières semaines. Et la progression est logique parce que la qualité, elle est là, elle était déjà là sous Alain Geiger, elle est encore plus présente selon moi désormais. Et c'est la confirmation de quelque chose qui, pour moi, était déjà dans l'air. Donc, je ne suis pas vraiment, vraiment surpris de retrouver ce Servette FC qui regarde désormais clairement vers le haut.
Florian, on a tous lu notre Valentin dans un championnat où IB est loin d'être souverain, où tout le monde bat tout le monde tous les week-ends et où Bâle part toujours autant en sucette. Ça peut aller où un Servette FC comme ça ?
Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de dire que ce championnat est finalement très sympathique, première chose, mais on avait quelques doutes, on se demandait s'il allait avoir vraiment deux extrêmes, des équipes complètement larguées, etc. C'est pas le cas, et pour l'instant ça fonctionne assez bien. Je sais pas ce que donnera ce dernier tour avec la division des équipes, etc. Mais pour l'instant ça ressemble à quelque chose, c'est agréable, beaucoup de matchs agréables, avec 6 affiches, vraiment, il y avait des gros doutes, et ça fonctionne. Quant à Servette, quand tu vois qu'il arrive à battre 2-0 un leader, ça veut quand même dire quelque chose. Quand tu vois qu'il y a une certaine profondeur de banc pour pouvoir enchaîner les matchs de Coupe d'Europe, de Championnat, ça veut aussi dire quelque chose. La question que j'ai envie de renvoyer peut-être à Nicolas et à Valentin, c'est à quel point est-ce que vous avez l'impression que René Weiler s'est remis en question, ou à quel point vous avez l'impression que juste il a insisté sur ses principes et qu'aujourd'hui ça fonctionne ?
Je ne sais pas si c'est de la remise en question. Je pense... Alors, je suppose qu'il devait, qu'il sentait qu'il devait insister sur ses principes au départ, Et peut-être qu'il a compris que le chemin pour y arriver, c'était en amenant des petites nuances, des petites variations. C'est quelque chose que je mentionne un peu assez régulièrement ces dernières semaines, mais simplement le fait que Servette, quand il construit le jeu, il fait preuve d'un petit peu plus de patience et il mobilise un joueur en plus, ça permet déjà de stimuler cette patience et puis de pas s'empresser à envoyer des longs ballons, parce que c'est beaucoup de ça dont on parlait au début de saison. Donc ça a permis, disons que c'est un chemin qui a permis d'arriver à ce que Weiler veut. Le fait de presser aussi, il y a une meilleure organisation aussi. On voit un petit peu comment est-ce qu'ils veulent. Quand ils allongent, on voit qu'il y a du monde à la tombée de balle. Donc simplement, je pense que peut-être que la méthode au départ n'était pas forcément la bonne. Il fallait pas être aussi radical dès le départ. Il fallait donner un petit peu plus de amener un peu plus de nuances. Et je crois que cette nuance-là, on l'a actuellement. Et vu qu'on a cette nuance-là, on arrive de plus en plus à valoriser ces schémas de jeu, ces circuits sur lesquels Weiler accorde une certaine attention et une certaine importance. Donc quand c'est vertical, ça peut l'être, mais quand il ne faut pas être vertical, ça ne l'est pas immédiatement. Donc je ne parlerai pas de remise en question, mais je parlerai simplement d'un chemin un tout petit peu différent pour arriver à ses fins.
De là, pour toi, c'est une évolution logique ou il a quand même adapté des choses à ce qu'il avait ?
Non, c'est une évolution, moi, je trouve plutôt logique. J'en reviens au temps. Un entraîneur a besoin de temps. C'est quelque chose que dans le monde d'aujourd'hui, on a de plus en plus de peine à s'en souvenir. Et Weiler a désormais eu ce temps, a appris aussi à connaître son effectif. Son effectif aussi a appris à le connaître. Et l'évolution, pour moi, elle est plus que logique au vu du potentiel qu'il y a dans cet effectif.
Valentin, je trouve que on connaît les talents qui font partie de ce groupe servettien, mais moi, il y a un joueur que j'aime particulièrement et qui est indispensable, c'est Chris Bedia. Comment tu vois son évolution? Est-ce que ce ne sera pas lui finalement le meilleur buteur cette saison de Super League, hein, parce qu'il a vraiment toutes les qualités et ça, c'est un joueur qui peut après vendre 10-15 millions en Ligue 1.
Ouais, alors Chris Bedia, c'est un excellent attaquant. Je pense qu'il fait partie, si on dit top 3, c'est un peu large. Top 5, un peu resserré. Top 5, c'est peut-être plus juste les attaquants de Super League. Et top 5, et il n'est pas cinquième. Hein. Il est quand même bien plus haut. Chris Bedia est un super attaquant. C'est un attaquant qui est assez complet, qui sont tous très intéressants au bout de chaîne. C'est-à-dire que c'est pas forcément lui qui fait le jeu, c'est pas lui que tu vas toucher qui va décrocher pour essayer d'organiser, lancer ses partenaires. Mais par contre, en bout de chaîne, à la réception des centres, quand tu lances en profondeur, ou bien tu peux lui faire une passe et puis il peut gagner des mètres avec gagner des mètres dribblés, porter cette balle sur une, je sais pas, 20 mètres, 25 mètres, en gagnant ses duels, en faisant preuve de puissance et de dynamisme. Donc ça fait de lui un super attaquant pour un club comme Servette. Maintenant, le problème de Chris Bedia, c'est qu'il est en fin de contrat en 2024, donc en juin 2024. Donc il y a évidemment des négociations, mais c'est très compliqué. Bedia, a priori, n'a pas forcément envie de prolonger. Il y a eu des offres cet été pour Bedia, Servette les a refusées aussi.
Servette s'est mis dans ce problème, en fait.
Voilà, Servette a considéré que pour avancer, pour réaliser une bonne saison, il lui fallait Bedia, ce qui peut s'entendre et ce qui, à mon avis, est tout à fait légitime, ce qui peut aussi permettre éventuellement un jour ou l'autre d'arriver à une prolongation avec tout le monde qui trouve son parti, même si évidemment que l'avenir de Bedia, en réalisant une saison comme il est actuellement en train de réaliser, son avenir est sans doute ailleurs qu'à Servette, en tout cas à partir de la saison prochaine ou la saison suivante. Donc je crois que personne n'est dupe, mais évidemment que Servette a besoin de Bedia actuellement, et surtout d'un Bedia impliqué et concerné. Et peut-être un des soucis qui peut se présenter à Servette, c'est de se demander si Bedia ne va pas être un certain moment un peu avoir l'esprit un petit peu obstrué par son avenir et par des questionnements qui peuvent y être liés. Et il va falloir quand même au moins mettre sur la table ces éléments, régler cette question de la manière dont elle peut être réglée, qui convienne à le plus de monde possible. Mais oui, ça va être à besoin de Bedia pour avancer et pour viser le plus haut possible. Et en tout cas, le candidat au titre, comme, parce que c'est à ça qu'on fait allusion depuis, depuis le début de ce podcast. Oui, j'ai écrit que Servette devait être un candidat au titre. Ça ne veut pas dire qu'il doit être champion, mais il doit faire en sorte de pouvoir être là si jamais il y a quoi que ce soit.
Florian, vas-y, Nico.
Ouais, moi je trouve ça. Parler de titre actuellement pour Servette, ça allait un peu vite en besogne. Mais IB, oui, mais peut-être moins dominant, mais on en disait la même chose de cet effectif l'année dernière. Et finalement, sans être aussi dominant qu'il y a quelques années en arrière, IB a largement dominé le championnat. Et je vois pas le Servette actuel déjà avoir diminué ou refait complètement l'écart par rapport à IB. Donc oui, être ambitieux, c'est bien. L'annoncer, c'est bien aussi, mais c'est aussi se mettre une pression. Et je ne sais pas si c'est le bon moment déjà pour le faire.
Ouais, du coup, c'est intéressant, mais tu fais quoi avec ton Chris Bedia s'il refuse de prolonger au deuxième tour? Sachant qu'il joue potentiellement sur une jambe, tu fais quoi? Tu pars avec lui pour le deuxième tour, tu le fais jouer, tu l'utilises comme titulaire? Ou tu te dis que, bon, bah, quitte à ce qu'il parte, est-ce qu'il faut compter sur quelqu'un d'autre?
Si tu peux le vendre et puis que tu as plus que le championnat à jouer, enfin, ça dépendra de ce qui se passe avec l'Europa League. Alors, il y aura la Coupe de Suisse de toute façon, mais si tu as plus que le championnat à jouer et plus l'Europa League, et que tu dis que tu peux avancer avec Crivelli, Guimeno, éventuellement Kuteza, Antunes quand il reviendra, pourquoi pas. Mais je pense que tu as tout intérêt à essayer de tirer le maximum que tu puisses tirer de Bedia, quitte à le perdre. De toute façon, il y a quand même de chances énormes que tu le perdes à la fin de saison. Donc, qu'il joue sur une jambe, ça, c'est, on le verra. Enfin, il a tout intérêt, lui aussi, à être le meilleur possible pour se mettre en valeur. C'est évidemment que c'est une situation qui est complexe et qui va amener une réflexion. Et on sait que Servette a des fois été confronté à ce genre de questionnement et a pris des décisions qui étaient variables. Parfois, avec Utrich, il avait décidé de l'écarter. Avec Ondoua, il avait décidé de le laisser dans l'équipe parce que Geiger considérait qu'il en avait quand même beaucoup besoin. Je pense que tout le monde, enfin, que Bedia et Servette ont intérêt à ce que Bedia joue et joue bien. Ça, c'est sûr. Quitte à ce qu'il prolonge pas derrière.
Nicolas, il y a la hype Bedia, mais un autre joueur qui est très en vue, c'est Kuteza. Pourquoi pas en équipe de Suisse bientôt, même remplaçant, hein, parce que c'est un poste où il y a de la place en Suisse.
Et surtout, on a vu dernièrement quelques choix qui ont été surprenants de la part de Murat Yakin, des joueurs qu'on n'attendait pas du tout en équipe de Suisse se retrouver être appelés. Est-ce que ça sera déjà le cas maintenant? Ça me surprendrait énormément. Je pense que ça viendrait un peu tôt pour Kuteza. J'aimerais qu'il en montre un peu plus encore pour véritablement avoir une chance en équipe de Suisse. Être appelé, est-ce que oui, ça fait bien dans le CV. Oui, ce serait certainement très, très utile pour lui, pour sa carrière, d'être une fois appelé. Mais est-ce que vraiment c'est déjà le moment aujourd'hui, j'en doute.
Florian, en fait, en équipe de Suisse, il faut appeler les meilleurs joueurs actuels. Il n'y a pas besoin d'avoir un bagage fou derrière. Si le gars fait gagner des matchs, ce que ne fait pas forcément Vargas ou Stéphane, il faut pas l'appeler, il ne faut pas attendre. C'est urgent de gagner pour cette équipe de Suisse.
Je suis d'accord avec toi, mais le problème est souvent un peu plus complexe que ça. Et j'ai l'impression que Murat Yakin n'est pas forcément du genre à aller chercher des joueurs tirés de son chapeau, en tout cas dans ce coin-là de pays. Je sais pas il faut nécessairement lancer le débat, Rusty Graben, etc. Je pense pas. Mais vraiment, ça me surprendrait. Pour moi, ce serait sorti d'ailleurs de voir coûter ça maintenant dans cette période pour les matchs à venir ou le début de l'année prochaine. Sortir et de nouveau, je pense qu'il doit quand même enchaîner quelques matchs pour un peu plus se taper dans l'œil.
Jérémy Frick avait quand même été appelé une fois.
Ouais, mais il me semble qu'il y avait quelque chose d'un peu politique.
Parce qu'il était
côté pour lui faire plaisir.
Valentin, tu crois? Tu crois que c'est quelque chose dont l'équipe de Suisse a urgemment besoin parce qu'il faut gagner là?
Oui, mais enfin, non, je ne crois pas que Kuteza soit la solution à tous les maux de l'équipe de Suisse. Hein.
Non, pas tous, mais ça peut être une carte.
Oui, il faut, disons que si on ne doit pas s'emballer sur le, pas voir Servette trop grand par rapport au titre et ses ambitions-là, il ne faut pas non plus s'emballer sur ses joueurs. C'est vrai, tu as actuellement de très bons joueurs, que Kuteza est bon, mais Kuteza fait surtout preuve d'irrégularité dans cette saison. Même s'il a, il réalise plutôt un bon début de saison, si on parle d'équipe de succès avec Kuteza, de toute façon, on sait très bien d'où ça vient, c'est parce que l'excellent Yves Debener l'a évoqué sur le plateau de la RTS l'autre soir. Et puis, alors, moi, je me suis fait un malin plaisir d'aller interroger Kuteza derrière en parlant de ça. Mais si on se parle franchement, Kuteza est intéressant parce qu'il a un profil différent, un profil qui est rare, mais tu ne construis pas, et c'est ce qu'on a beaucoup dit sur l'équipe de Suisse, tu ne prépares pas simplement que trois matchs, là, tu as aussi pour but de développer une équipe de Suisse qui puisse durer sur plusieurs mois. Kuteza est peut-être bon actuellement, mais est-ce qu'il sera bon dans 6 mois, dans 8 mois à l'Euro? Partant du principe qu'il y aura un euro, est-ce qu'il sera encore bon plus tard après ça? C'est quand même des choses qui sont difficiles à se dire. Alors, il n'a certes que 26 ans, mais quand même, si tu dois partir, si tu dois miser sur les joueurs, tu mises peut-être plutôt plus sur un Vargas qui est installé, mais aussi surtout sur un Endoy qui doit être installé un petit peu plus et qui joue quand même dans un grand championnat européen. On a vu Kuteza quand il a joué dans un grand championnat européen. Ça n'a pas été évident pour lui non plus à Reims à l'époque. Et puis en Belgique, c'était un peu complexe aussi. Donc voilà, enfin, Kuteza est un très bon joueur du championnat de Suisse. Peut-être qu'il aura la chance une fois de repartir à l'étranger. Mais il avait la possibilité, a priori, il y avait eu des offres venant de Turquie pour lui pendant l'été que Sarret avait refusé. Mais je ne pense pas que son avenir s'écrive forcément au très très haut niveau, donc en équipe nationale.
On passe au quart d'heure vaudois. Nicolas, je commence par toi avec ce Lausanne Sport qui est bientôt peut-être de nouveau la grande force du canton, mais plus que cette anecdote au classement. On a vu cette semaine qu'il y avait quand même un peu de moelle, il y avait un peu de caractère au LS après la défaite horrible contre Lugano en coupe. Il y a eu réaction.
Bon, avant tout, la logique voudrait que Lausanne soit quand même au classement de par ses moyens, le numéro 1 du canton. Donc, la logique va peut-être se retrouver là dès le week-end à venir. Par rapport à la défaite de mercredi, il y a quand même certaines circonstances. Il y a l'expulsion de Guiguer qui a changé complètement la partie. Et on a vu ce samedi que le Lausanne proposé par Ludovic Magnin a confirmer ce qu'il avait montré déjà depuis quelques rencontres. Ça fait 4 matchs sans défaite et ça correspond aussi à la titularisation régulière de Jamie Roach à mi-terrain. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard si Lausanne est plus stable et plus performant depuis que le jeune Suédois est installé par Ludovic Magnin avec Bernet. C'est un sacré duo, beaucoup plus constant, beaucoup plus stabilisateur au centre du terrain, au cœur du jeu que ce qui était le cas précédemment. C'est Olivier Custodio qui en a fait les frais et un bon capitaine. Quand il l'a appelé, il fait le job comme il l'a fait samedi. Donc, Lausanne a fait clairement, selon moi, un pas en avant et une équipe qui devient très, très intéressante.
Florian, on sait que Ludo, il ne change pas beaucoup de choses, mais l'entrée de Roach, ça a vraiment changé un peu ce milieu de terrain auquel il manquait clairement un impact physique.
Bah, ce qui me saute aux yeux, en fait, c'est que Olivier Custodio avait quand même une certaine tendance à jouer énormément de ses ballons vers l'arrière ou par passe latérale, etc. Alors que Jamie Roach cherche constamment une option pour jouer vers l'avant et s'il n'arrive pas, il revient vers l'arrière. Et je trouve que ça change beaucoup de choses à la façon dont joue Lausanne et à l'animation. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on s'emballe un peu sur ses prestations et qu'on était très critique en début de saison. Mais moi, je vois une certaine constance dans ce que fait l'ELS depuis le début de la saison, vraiment. Alors, il y a des matchs qui tournent un peu mieux aujourd'hui. Pour certaines raisons, Jamie Roach en fait partie. Mais mine de rien, le LS n'était pas largué quand il perdait tous ses matchs. Il n'est pas largement au-dessus du championnat maintenant. C'est assez important à dire. Et une dernière chose peut-être encore, c'est on parle de Jamie Roach, mais je pense qu'on peut aussi parler de Samuel Kalou après le départ de...
J'étais prêt à y venir.
Ah bah magnifique, magnifique. Mais voilà, après le départ Mince, j'ai perdu son nom, aidez-moi, Anis.
Et Baldé.
Merci beaucoup.
On l'a oublié, mais Anis
non,
aussi.
Non, on l'a pas oublié, mais peut-être qu'on est en train de découvrir un joueur qui est carrément encore meilleur qu'Aliou Baldé, parce que j'ai l'impression qu'il a aussi un peu plus de réussite et de lucidité devant le but, et de nouveau dans le jeu, par ses déviations, par son impact, par sa disponibilité. C'est vraiment un joueur qui fait du bien. On parlait d'un joueur frisson, d'un joueur spectacle un peu dans cet effectif que Lausanne avait perdu. Ben, je crois qu'il l'a assez vite retrouvé.
Valentin, c'était un peu quand même une surprise d'avoir un Kalou qui signe au Lausanne Sport, parce qu'on le connaissait pour sa carrière avant. C'est quand même un gars qui gagnait beaucoup d'argent en Première Ligue et en Angleterre. C'est pas forcément une surprise de le voir à ce niveau, mais il a fallu du temps. Et ses buts sur Coup Franc, c'est vraiment un game changer, parce que c'est presque des buts gratuits, quoi.
Oui, alors ça, c'est clair que c'est un atout qui est formidable, surtout dans un championnat comme championnat de Suisse, où il n'y a pas non plus 15 ou 20 excellents tireurs de coups de pied arrêtés à recenser. Kalou, c'est évidemment un apport qui peut être très important pour un club comme Lausanne. Et il suffit parfois de petits joueurs, des joueurs comme ça d'expérience, qui ont navigué dans des très grands championnats, qui ont eu un moment à très haut niveau, pour donner un peu plus de crédibilité à un club de Super League. On peut prendre Max Meyer quand il est à Lucerne, on peut prendre ce genre de joueurs. C'est les joueurs qui ont pas besoin de beaucoup pour faire des différences. Alors, quand Clichy était à Servette, c'était aussi il y avait un petit peu cette idée-là, avec sans forcément comparer de front les carrières des uns et des autres, mais simplement, c'est des joueurs qui ont vu autre chose et qui ont été confrontés à des niveaux qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut connaître en Suisse. Donc c'est un apport qui est évident pour un club comme Lausanne. Maintenant, il faut quand même aussi relativiser un tout petit peu. Évidemment que les coups francs font partie des matchs de foot. Évidemment que c'est important d'en marquer. Mais marquer régulièrement des coups francs, ou bien marquer des coups francs à chaque match, c'est quand même pas un truc qui est commun, et ça ne va pas arriver pendant toute la saison. Donc, il faut quand même se dire que Lausanne marque des buts, mais il ne marque pas des buts sur des actions extrêmement bien construites ou des occasions extrêmement dangereuses. Il y a un petit peu de réussite, alors actuellement. Elle compense sans doute aussi le manque de réussite qu'il y a pu avoir au début de saison. Mais il y a peut-être simplement une forme de retour à la moyenne qui est appelée pour Lausanne. Et où est-ce que ça peut le porter? Moi, c'est la question que je me pose. Que ce soit une équipe de milieu de tableau du championnat, entre la cinquième et la neuvième place, je pense que Lausanne sera à sa place. Au-dessus, je ne dirais pas. En dessous, ça m'étonnerait.
Nicolas, avec un Kalou qui s'est remis dans le rythme après avoir longtemps été en tribune, avec un Jamie Roach qui se révèle, parce que finalement, on ne le connaissait pas, est-ce que Lausanne peut viser la barre, quoi?
Le problème, c'est qu'il faut mettre 6 équipes derrière pour être au-dessus de la barre. Et qui mettre derrière parmi les 6 qui sont actuellement au-dessus?
Et ça, alors, je trouve qu'il y en a 3 ou 4, c'est assez facile.
Pour de dessous, oui, mais dans les 6 qui sont actuellement au-dessus de la barre, on enlève qui pour mettre Lausanne à la place?
Lucerne sur la durée, ça, c'est peut-être le seul dont on peut se dire qu'il a peut-être un petit peu moins de les moyens et le jeu et puis les joueurs pour rester tout en haut, mais ça reste quand même une équipe qui peut être très performante et qui peut avoir une série qui suffit à la mettre en haut. Donc non, évidemment, moi je suis d'accord, moi je pense que le top 6 actuel a tout pour être le top 6 à la fin des 33 journées, donc ça c'est clair que actuellement, je ne vois pas Lausanne meilleure qu'une de ces équipes, et je ne vois pas pourquoi elle deviendrait meilleure que de ces équipes.
Mais Florian, le but annoncé, c'est quand même le maintien confortable, ça le laisse à les moyens d'y arriver.
Oui, après, les buts annoncés par le LS, je crois qu'il faut toujours rester, enfin, prendre un peu de
recul. Ça dépend qui parle, si c'est le président qui s'enflamme, qui parle d'Europe juste après.
Parce que ça fait quand même pas mal de fois qu'on nous vend l'Europe depuis 2017 au LS et qu'on l'attend toujours. Donc, franchement, je sais pas, j'ai un peu de peine à toujours me lancer dans des grandes projections de classement. Peut-être que ce que je voulais encore apporter par rapport au LS, et c'est assez intéressant, c'est que je crois que le LS est un peu en train de mettre tous ses œufs dans le panier de ses ailiers, si on peut le dire comme ça. Parce qu'il y avait cette question après le match de coupe contre Lugano où tu perds ton deuxième latéral droit. Est-ce que Ludovic Magnin va passer à 3 derrière ou pas? Et lui, sa réponse a directement été non, mais j'étais persuadé que je restais à 4 parce que j'avais mes deux ailiers frais et j'avais envie qu'ils jouent. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qui fait la différence au LS, c'est ça. Et peut-être que si on parle de classement, ben voilà, ça dépendra de la forme de Fousseni Diabaté et puis de Samuel Kalou, de savoir jusqu'où le LS peut monter.
Moi, j'en attends quand même un peu plus de Diabaté, qui avait été présenté comme le remplaçant 1-1 de Baldé. Et pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. Je suis beaucoup plus convaincu par Kalou.
Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Bah, parlons aussi un peu d'Yverdon. Florian, t'étais à Bâle. Est-ce que la magie Yverdon a disparu avec Shelly Barm?
Bon, ça, on le verra assez vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yverdon est entré dans une période où il n'a plus droit à une quelconque indulgence. J'ai l'impression que tout sera ramené à chaque fois maintenant à ce qu'aurait pu être Yverdon avec Marco Schellibaum. Donc tu perds un match, c'est oui, mais si on avait Marco Schellibaum, ça aurait donné quoi? Tu prends une claque, tu vas dire, ah, est-ce qu'elle aurait existé avec Schellibaum? Alors que, évidemment, tout n'était pas parfait avec Marco Schellibaum. Il y a aussi eu des 6-0, 6-1 à Lugano, etc. Ça a existé. Bon, évidemment, ce qu'on a vu à Bâle, c'était pas le grand Yverdon Sport. On n'a pas toujours vu un grand Yverdon Sport cette saison, donc pas forcément se dire que c'est sur le dos du changement de coach. Je pense que de nouveau, Alessandro Mangiarati n'a pas une mission facile, quoi. Franchement, il arrive dans un contexte pas évident. Je suis curieux de savoir ce qu'il va réussir à faire, parce que j'ai l'impression que ça peut assez vite mal tourner. Il y a déjà, tu relances Bâle hier, t'as le LS qui arrive en pleine bourre la semaine prochaine, tu commences avec 2-0, puis voilà, ça va parler. Franchement, ouais, je me fais un peu de soucis pour Yverdon.
Nicolas, Yverdon, ben, il se passe ce qui se passe, le slow, c'est très compliqué, c'est normal. Ils ont mangé leur pain blanc quand même, ces deux équipes, elles ont mangé leur pain blanc au début de saison.
Je me demande si effectivement on n'en est pas à ça et on va se retrouver avec ce qui était attendu en début d'exercice. Slow et Yverdon comme deux principaux, pour ne pas dire les deux principaux candidats aux deux dernières places. Et le Slow est déjà dans cette position et je crains pour Yverdon avec ce choix extrêmement surprenant. De se retrouver très très vite aussi à devoir regarder derrière, mais ne plus avoir beaucoup d'équipes derrière au classement.
Valentin, tu allais volontairement t'infliger un match à la Ponteuse. Le slow, s'il n'y a pas de conjonction d'événements, il faut vraiment qu'il fasse tout juste, sinon on voit la différence est grande.
Je pense qu'il faut qu'il fasse tout juste, il faut qu'il soit frais, il faut qu'il y ait les matchs qui tournent bien. Et disons, ce qui devient un petit peu compliqué pour Stade Lausanne maintenant, c'est que y a moins d'euphorie. Et ce qui est logique, quand tu peux miser sur l'euphorie de la montée, sur des bons premiers matchs, donc tu rentres dans une dynamique qui est assez vertueuse. Et puis dès que ça s'arrête, dès que tu fais face à des moments qui sont un peu plus compliqués, que tu n'as pas forcément énormément de ressources en termes de joueurs, en termes de qualité. Disons que quand tu t'enchaînes en plus trois matchs dans la même semaine avec ce match de coupe, 120 minutes en coupe contre Servette mercredi, il y a quand même, disons qu'hier on a vu les limites, quoi. Enfin, on voit les limites de certains joueurs. Quand tu fais, Breza peut pas se permettre de faire énormément de tournées non plus. Il y a quand même, voilà, je pense que Stade Lausanne a besoin de son équipe type dans un match qu'il a le temps de bien préparer et qu'il a le temps de bien affronter. Pour faire des points. Or, dans une saison, c'est compliqué de pouvoir toujours miser sur la même équipe, et il y a un moment où ça craque, et il y a des moments qui sont forcément plus compliqués. Alors peut-être qu'ils vont être capables de se relever et puis de revenir en forme la semaine prochaine, mais ce que j'ai vu hier contre Saint-Gall, c'est quand même, je crois que c'était assez inquiétant et assez, disons que c'était pas forcément très rassurant pour la suite. Alors qu'à l'inverse, je pense que Yverdon, il n'y a pas de raison, enfin, il y a beaucoup moins de raisons de s'inquiéter pour l'instant que par rapport à Saint-Lausanne, parce qu'il y a plus de qualité. Du côté d'Yverdon.
Florian, on voit, hein, ce SLO, finalement, il n'y a pas vraiment de joueurs de Super League et les recrues, c'est aussi des paris. Donc, forcément, si tout ne s'imbrique pas, ça va être compliqué pour le maintien. Est-ce que c'est franchement le but aussi de s'établir à long terme du côté du club de la Pontaise?
Bah, oui, je pense quand même que c'est le but, parce que finalement, leur projet, c'est d'essayer de créer un environnement dans lequel tu peux valoriser des individualités sur le terrain chaque semaine. Et j'ai l'impression que Anthony Breza, au-delà de sa rigueur, essaye de faire ça aussi, essaye de mettre certaines individualités dans des bonnes dispositions pour qu'elles fassent des différences, etc. Maintenant, bah, ça implique aussi un peu de confiance, ça implique aussi des résultats. Et voilà, quand ça ne s'enchaîne pas, bah, évidemment que ça devient compliqué. Est-ce que c'est un drame si Duslo retombe en Challenge League? Non, parce qu'il faudra bien une équipe. Et si ce n'est pas Stade Lausanne, c'est Bâle, c'est Grasshopper, c'est le LS. Donc voilà, mais de nouveau, pour ce qui est de leur projet, ils sont assez bien ici. Quoi.
Nicolas, Anthony Breza, en fait, comme beaucoup de gens au SLO, ils ont tout à gagner parce que s'ils restent, c'est un miracle. Et puis s'ils descendent, ben, tout le monde attendait ça.
Oui, mais le SLO va tout faire pour se maintenir, évidemment. Et je suis en train de me demander jusqu'à quel point Anthony Breza est prêt à rester fidèle à sa philosophie. Il a annoncé qu'il voudrait s'y tenir. Il y en a d'autres avant lui qui, en première division, sont arrivés avec une volonté de tenir absolument à leur philosophie. Je pense à Mario Frick à l'époque avec Vaduz, à Berner la saison dernière avec Winterthur. Et ça s'est pas bien passé, c'était compliqué. Ils ont changé et Vaduz n'est pas passé loin de se sauver. Winterthur est parvenu à se sauver. Et est-ce que Breza est prêt à changer sa manière de faire, être peut-être un peu plus pragmatique par rapport au niveau que son effectif découvre, pour peut-être être moins joueur, peut-être moins spectaculaire, mais au final peut-être faire plus de points? Et c'est actuellement ma grande interrogation autour du SLO et de son entraîneur.
À ma connaissance, en tout cas, il a le soutien de ses dirigeants pour fonctionner de cette manière, quoi.
Oui, mais à mon sens, c'est pas un problème de soutien des dirigeants, c'est un problème de je veux maintenir cette équipe ou pas, à tout prix.
Valentin, tu connais ton Breza, tu penses qu'il peut être plus pragmatique ou de toute façon, il n'y a pas 100 000 façons de jouer, hein?
Plus pragmatique, je pense qu'il considère que c'est très, très pragmatique la manière dont il joue. C'est clair que c'est quelqu'un d'assez radical et la chance qu'il a, c'est que personne n'attend Stade Lausanne plus haut, forcément. Donc personne n'attend Stade Lausanne au-delà de la 10e place, 11e, 12e, on sera dans le juste, quoi qu'il en soit. Donc il peut pousser jusqu'au bout. Après, la question, c'est de savoir si est-ce qu'il aura l'adhésion de son groupe, ses joueurs, jusqu'au bout. Je pense que ces joueurs sont si conscients qu'ils n'ont pas qu'ils ont pas une équipe qui est une des meilleures équipes de Super League. Donc ça, évidemment que c'est peut-être plus facile à les convaincre de la sorte. Mais une fois qu'il y a tel ou tel joueur qui vont être un petit peu courtisés, forcément par des clubs de Super League. Enfin, je ne sais rien. Sans donner, j'ai pas d'infos, mais j'imagine bien qu'un Edini, qu'un Kari, qu'un Camara, que des joueurs comme ça, ça intéresse d'autres clubs. Et qui vont remarquer qu'ils ne se mettent pas forcément en valeur dans cette équipe qui risque de prendre régulièrement l'eau. Là, ça peut peut-être faire électrochoc ou bien déclencher quelque chose, une réflexion un petit peu différente. Mais tant que tu as l'adhésion, je pense que Breza ne va pas y déroger.
Bon, comme on est le premier podcast roman de l'histoire à être enregistré depuis l'Angleterre, je vous propose de parler un peu de ce qui se passe outre-Manche, parce qu'il y a eu un bel enchaînement là avec. Je suis allé voir Zeki Amdouni à Burnley et il y a ce City IB qui fait un peu peur mardi soir. Florian, j'aimerais commencer à parler un peu du cas Zeki Amdouni. C'est très très dur de monter en première ligue et c'est très très dur aussi de passer du championnat de Suisse à la première ligue. Comment tu juges son début de saison? C'est un but en première ligue, hein, mais dans une équipe qui est à égalité avec la Lanterne Rouge. Zeki Amdouni, c'est compliqué, mais nous, comme on le connaît depuis la Suisse, on peut espérer qu'il se mette à niveau parce que jusqu'ici, il l'a toujours fait.
Oui, dans mes souvenirs, à chaque passage de niveau de Zeki Hamdouni, il a quand même eu besoin de quelques mois pour que ce soit vraiment intéressant. Ça n'a jamais tout de suite sauté aux yeux. Je me souviens de ses premiers matchs avec Stade Lausanne en Challenge League. Tu voyais qu'il y avait quelque chose, mais c'était brouillon, etc. C'est Andrea Binotto, son entraîneur, qui l'avait fait jouer 2-3 matchs, puis qui l'avait relégué sur le banc pendant un moment, puis qui l'a fait faire venir. Donc j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, et que malgré ça, il s'en est tiré avec pas mal de louanges lors de ses premiers matchs, qu'il sortait mine de rien, en fait, je ne sais pas si on peut dire qu'il sortait du lot, mais en tout cas, il s'attirait plutôt la sympathie des suiveurs et des connaisseurs du club. Alors pour moi, sachant que c'est la plus grosse étape qu'il a sauté et d'assez loin, il est dans le ton, quoi. Il est dans le ton. Je m'attendais pas à ce qu'il ait déjà marqué 8 buts à cette époque-là de la saison. Puis nous, il surprend. Il a ce style un peu atypique qui lui attire de nouveau une certaine sympathie. J'ai l'impression. Il a su rester fidèle à ça. Et pour moi, il est dans la droite ligne de ce qu'il sait, ce qu'il doit faire.
Nicolas, t'es pas inquiet?
Ben moi, je suis surtout et avant tout surpris. Je n'imaginais pas qu'il aurait autant de temps de jeu que ce qu'il a. Parce que passer du championnat de Suisse à la Première Ligue, c'est franchir deux étapes. C'est passer, manquer l'étape intermédiaire qui peut être au jour d'aujourd'hui, en 2023, un championnat comme l'Allemagne, comme la France ou comme l'Italie. Dans une moindre mesure les Pays-Bas, la Belgique. Donc, passer de la Suisse à l'Angleterre et jouer autant que ça, c'est ça qui me surprend. Au-delà du nombre de buts qu'il a pu marquer jusqu'à maintenant, chapeau à lui d'avoir su gagner la confiance de son entraîneur.
Ouais, Valentin, c'est vraiment ça. C'est que Vincent Compagnie, on connaît le coach, on connaît ce qu'il veut faire aussi avec son équipe, parce qu'il a fait incroyablement bien en Championship l'année passée. Et quand un entraîneur comme ça te remet match après match, ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a la confiance, évidemment que lui, le décèle du talent chez Hamdouni, c'est pas anodin non plus. Je pense qu'en termes de créativité, c'est évidemment que t'as ce genre pour lequel t'as pas forcément envie de t'en passer. Sachant la manière dont tu veux jouer, dont Burnley veut jouer. Évidemment, je rejoins ce que Florian et Nicolas ont dit avant. Il joue et il a besoin de temps. Il a toujours besoin d'un petit peu de temps pour exploser. Hamdouni, je me rappelle que l'année passée avec Bâle, en championnat, il avait marqué que 2 buts avant la trêve, donc avant l'hiver. Donc c'est au premier tour. Donc ça veut dire quand même que évidemment qu'il a besoin d'un petit peu de temps. Ça veut dire qu'il faut pas s'inquiéter, qu'il faut pas dramatiser. Je crois que jouer en première ligue avec son profil, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement exigeant, et ça demande de trouver des espaces qui sont pas si évidents à trouver. Et le fait qu'il arrive à en trouver, qu'il arrive à chaque match à se créer des occasions, alors elles ne sont pas toutes de même qualité, elles ne sont pas toutes aussi importantes, mais au moins il est toujours il finit rarement un match avec aucune occasion créée. Se créer des occasions, c'est ce qui est de plus important pour un attaquant, et surtout pour un attaquant qui fait un saut comme Hamdouni est en train de faire. Donc voilà, moi je demande surtout à voir. J'espère que Burnley, le club de Burnley, aura la patience de garder Compagnie aussi longtemps que possible, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un autre entraîneur, parce que là ça peut être un petit peu plus compliqué. Et j'imagine bien qu'Hamdouni, un jour ou l'autre, va pouvoir trouver un peu plus de régularité au niveau des buts. Et s'il ne le fait pas, on sait qu'il a quand même, il est capable de redescendre d'une marche, et sans redescendre en Super League, mais en passant, j'en sais rien, en Allemagne, en France, dans un autre championnat comme celui-là. Mais j'ai quand même envie de le voir sur la durée en Premier League.
Ouais, et toi, Robin, c'est quoi ton ressenti? Toi qui es sur place, c'est devenu quelqu'un là-bas ou
Pas encore. Là, il se déplace à fond sur Coléochaux, l'ailier gauche américain, encore plus jeune. Mais ouais, c'est une dinguerie, parce que Burnley a dépensé 115 millions cet été en transfert. Et les journalistes sur place, ils mettaient le feu au club pour ne pas avoir dépensé autant que Nottingham. Et qu'ils, du coup, ils ont été obligés d'aller chercher des joueurs profil Hamdouni. Donc prometteur, pas encore trop cher, et ils essayent de lui faire passer ce palier à Burnley plutôt que de recruter, je sais pas, un Anglais sur le banc de Manchester United depuis 7 ans. Donc c'est assez intéressant, et vraiment il y a eu un brassage des populations dans le club assez incroyable. Et puis il faut pas oublier que c'est une ville de 70 000 personnes qui d'un coup recrute pour 115 millions. Je sais pas si on peut pas se rendre compte depuis la Suisse à quel point ce championnat est devenu Disneyland, quoi. Tu achètes, tu peux acheter quasi n'importe quoi dans les autres championnats. Alors, des, ça coûte cher, d'autres ils voudront pas venir parce que c'est Burnley, et je peux dire qu'aller à Burnley il faut vouloir. Donc c'est assez intéressant, et je pense que c'est, avec compagnie en plus pour Zeki, c'est vraiment ce qu'il pouvait avoir de mieux lui dans sa carrière. Comme tu disais, Nicolas, il y a peut-être un step à faire, hein, mais il faut pas oublier quand même que le gamin il a 23 ans le mois prochain. On a l'impression qu'on le suit depuis toujours, hein, depuis ce fameux match, je rappelais dans un papier, où il était sur le banc contre Azzurri Lausanne avec Étoile Carrouge il y a 5 ans. Et pile 5 ans, jour pour jour après, il se retrouve face à City en championnat anglais. À me donner, on a l'impression qu'il a toujours été là, que tout est naturel et que tout va arriver. Donc moi en plus je ne me fais pas de soucis, tu le vois dans ses déplacements, tu le vois dans son positionnement sur le terrain, et c'est pas simple, hein, parce que tu as deux ailiers de côté, puis tu as le grand Jay Rodriguez qui prend toute la tête autour, et lui il doit un peu inventer des trucs là au milieu, essayer de trouver des circuits pour, ben là, contre Crystal Palace de Roy Hodgson, c'est le vrai bon football à l'anglaise où tu joues sur 30 mètres devant ton point de pénalty. Donc là, il peut amener vraiment quelque chose, mais c'est un impact dingue, ça court dans tous les sens, il pleut, il fait 6 degrés, c'est un autre monde. Hein. Et puis quand tu n'as connu que la Suisse, quand pendant des années, tu as dû t'adapter entre Genève et entre Lausanne, puis Bâle, c'est quand même pas très compliqué. Et là, tu tombes, samedi, il faisait nuit à 16h30. Hein. C'est vraiment un autre monde et c'est très intéressant à suivre. Mais bah, comme vous disiez, moi non plus, je ne suis pas vraiment inquiet sur le sujet.
À part peut-être au niveau du contexte, juste on parlait, toute proportion gardée de Stade Lausanne qui a bien le droit de tomber, parce qu'au fond, voilà, Super League, Challenge League pour un club comme ça, ça ne change rien. Puis tu as donné tous les éléments pour le comprendre, mais quand tu es en première ligue, tu veux pas tomber de première ligue. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Et...
Bah, t'as le parachute, tu sais, tu touches, je sais plus, les chiffres, c'est fou. Tu fais 45 saisons du Stade Lausanne-Ouchy avec ce que te donne la première ligue quand tu tombes. Et bah, on voit, hein, y a pas de miracle, les trois derniers de première ligue actuelle. Hein. Non, c'est vraiment très difficile de passer ce step. C'est Roy Hodgson qui en parlait justement ce week-end. La première ligue, en plus, elle progresse de façon fulgurante. Il y a une telle différence de moyens avec les autres championnats. Je regardais une fois le salaire moyen en championship, c'est le même qu'en Ligue 1. Ça veut dire c'est vraiment un niveau financier complètement différent, et ouais, c'est très compliqué. On va le voir encore demain soir entre City et IB. Là, on parle encore d'une dimension parallèle par rapport à cette Ligue des Champions. Et là, alors que là, pour une fois, on a affaire à deux champions de pays. Mais non, c'est vraiment. Si on peut pas comparer ce championnat avec même avec peut-être les deux grandes Espagnes, mais c'est tout. Là, ils sont passés dans un autre monde. Du coup, Nicolas, on a encore 3 minutes pour parler justement de ce City IB. Bah, on a vu City ce week-end qui gagne 3-0 à la mi-temps contre Bournemouth, qui permet de faire sortir Haaland, quitte à le vexer, qui gagne quand même 6-1 à la fin. Ça doit faire peur. Là, t'es Ratchiopi, t'es pas serein. Hein.
Mais IB l'a vu déjà il y a 2 semaines au Wangdorf. Hein. C'est une autre dimension. Je pense que IB était presque content de la manière que ça s'est déroulé à Berne. Et si ça peut se dérouler de la même manière demain soir pour les Bernois, ben, ça sera encore une fois une bonne performance d'IB. Mais parce que la différence est devenue tellement, tellement, tellement grande. 60e minute, sauf erreur, plus ou moins à Berne. C'est un champion du monde et un champion d'Europe qui rentre avec Alvarez et Bernardo Silva. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, beaucoup plus loin, pour voir et constater à quel point on est plus que deux mondes de différence, on est bien au-delà.
Valentin, qu'est-ce que serait un bon match d'IB mardi soir?
Compliqué. Disons qu'en termes de résultats, tu peux t'attendre à rien d'autre qu'une défaite en théorie. Un bon match d'IB, c'est un match dans lequel ils arrivent à développer des principes et un aspect de son jeu qui puisse reproduire ensuite contre essentiellement l'Étoile Rouge Belgrade, éventuellement Leipzig, mais surtout contre des idées qui puissent fonctionner face à des équipes qui sont a priori un petit peu plus faibles que Manchester City. Il faut utiliser ces matchs-là pour s'encourager et puis pour essayer de continuer continuer à progresser et se préparer au mieux face à des équipes qui sont plus à la portée. Et là, on parle surtout de l'Étoile Rouge. Il ne faut pas avoir peur d'avoir le ballon quand tu peux l'avoir, même si évidemment qu'il y aura surtout en compte qu'il y aura des moments à exploiter et des idées, des espaces qui vont s'ouvrir dans ces séquences-là. Donc voilà, un bon match d'IB, c'est surtout un match sur lequel tu te fais pas. Tu peux au moins montrer de la personnalité, à mon avis. Et après, le reste, tout est un petit peu imprévisible.
Mais est-ce qu'un bon match d'IB, c'est pas finalement un match où Meshack Elia claque deux buts et qu'il y ait 2-2 ou 6-2 à la fin, il tape dans l'œil des recruteurs et tu arrives à le vendre 10 millions l'été prochain?
Ça, c'est possible, tout à fait, mais ouais, disons que si les recruteurs du monde, enfin de l'Europe entière ont besoin d'attendre un match de Ligue des Champions face à Manchester City pour découvrir Meshack Elia, ouais, c'est qu'ils font sans doute mal leur travail. Hein,
mais ça commence à faire un moment qu'il prend racine à IB, non? Je suis surpris qu'il ne soit pas encore parti.
Extrêmement. Oui, je crois d'après ce que j'avais compris, que IB est un peu trop gourmand.
Nicolas, ça doit être terrible quand même, parce que c'est le match que tu attends, c'est le match phare, tu trépines depuis le tirage au sort de jouer à l'Etihad Stadium, mais tu sais que tu vas passer beaucoup de mauvais quarts d'heure.
Oui, mais tu ne dois pas pour autant y aller en pensant perdre. Je pense que City peut aussi connaître un jour sans. City sait déjà qui va se qualifier pour la suite. Et AIB de jouer son jeu et d'y croire, mais en sachant effectivement que peut-être 75 minutes sur 90, ça sera une bataille pour éviter d'encaisser, mais il faudra profiter des rares moments qui pourraient s'ouvrir comme les Bernois avaient su le faire avec Elia lors du match il y a deux semaines.
Florian, ça va être la dernière question, elle est infecte. Donnons un pronostic pour ce Manchester City Ball. Celui qui est le plus proche en termes de but, Citizen, je lui paye une bière. Toi, tu vois combien?
Terrible question. 5 à 2, voilà, je vais rebondir sur ce que je disais avant, et 5 à 2 avec un doublé de Meshack Kaliak.
Nicolas?
Vicky avait gagné la dernière fois qu'il était à l'Etihad avec balle 2-1, mais il y aura quand même à peu près le même résultat qu'à l'aller, 3-1 pour City.
Je trouve bien optimiste. Valentin, tu vois aussi un truc dans le genre?
3-4-0, on a dit, on sera un peu plus dans le juste.
Ok, alors moi, histoire d'avoir une plus grande marge, je vais pronostiquer 8-1. Comme ça, je suis quasi sûr de gagner. Merci les amis. C'était très intéressant.
À bientôt.
Merci à tous.